Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
Les enquêtes de Christian Page.
Et comme à chaque vendredi, il est là, Christian Page, Mythes et Complots, bonjour.
Salut Bernard.
Oh, on commence fort.
On commence avec une histoire assez sordide quand même, il faut l'avouer.
Les exorcismes.
Les exorcismes, mais cette fois, c'est un exorcisme qui a mal tourné. Il faut savoir, Bernard, que dans la littérature, on appelle ces exorcismes des exorcismes sauvages. Ce sont donc des gens qui s'improvisent exorcistes et qui vont tenter de libérer un sujet qu'ils croient être possédé du démon. Ça se fait, bien sûr, en marge de toute institution religieuse. Et ces gens-là, ils vont en fonction de leurs propres croyances. Et malheureusement, dans ces dérapages, il y a souvent des victimes, et dans le cas présent, c'est un petit garçon de 6 ans. Écoute, l'histoire est assez sordide, je la raconte.
J'aurais dû prendre un ton plus posé d'abord pour lancer l'affaire.
On est le 26 septembre dernier, ça se passe sur une réserve des Premières Nations aux États-Unis, c'est la réserve de Pasquayaki, ça se trouve en banlieue de Tucson, en Arizona. Et pour intervenir sur les réserves des Premières Nations, c'est surtout le FBI qui va intervenir, qui est la police fédérale, justement à cause du statut fédéral des réserves. Donc, ils reçoivent un appel. On est le 26 septembre dernier. On est en début, en fin d'après-midi, début de soirée. Et donc, les policiers arrivent sur place. Ils arrivent au domicile d'un certain Pablo Martinez. C'est un homme de 31 ans. Lorsque les policiers arrivent là, l'homme est assis à l'extérieur de la maison avec sa compagne.
OK, Pablo Martinez qui vit sur une réserve autochtone?
Oui.
Ça fait pas très autochtone, ouais, Pablo Martinez.
Lui, il n'est pas autochtone. Okay. Son épouse, Mme Martinez, elle est autochtone.
Ah, voilà.
Elle est de la Première Nation Yaqui. Donc, ils vivent là. Les policiers arrivent sur place. L'homme ne pose pas de résistance. Lorsque les policiers arrivent et demandent ce qui se passe, la dame indique « Demandez à mon mari ». Et là, lui, il lève les mains en disant « Je l'ai fait ». Donc, on le menotte et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et tu vas voir, Bernard, l'histoire est assez sordide. Depuis 2 semaines, les Martinez ont des enfants et ils ont un petit garçon de 6 ans. Et depuis 2 semaines, le petit garçon présentait des symptômes que les Martinez ont interprétés comme étant des symptômes d'une possession diabolique. Alors, ce jour-là, en fin d'après-midi, M. Martinez a accepté de donner le bain à son petit garçon de 6 ans, qui est identifié uniquement par ses initiales sur le communiqué de la police. Donc, il décide de donner le bain au petit garçon et à un autre petit garçon de 4 ans qui se trouve dans le domicile des Martinez, dont les Martinez ont la garde cet après-midi-là. Donc, alors que tout ça se passe, M. Martinez s'enferme dans la salle de bain avec son fils de 6 ans, le garçon qui est à leur charge, et Mme Martinez, elle, s'affaire dans la cuisine à préparer le repas du soir. Et là, soudain, elle entend un brouhaha, elle entend un enfant qui marche qui sort de la salle de bain en trombe, en pleurant, elle entend le bruit de la porte de la salle de bain, donc qui se referme avec le bruit du verrou que l'on place. Alors, Mme Martinez est étonnée, elle se dirige, frappe à la porte. Elle entend du bruit dans la salle de bain, mais son mari refuse de lui répondre. Elle frappe dans la porte, finalement, elle réussit à entrer. Et là, il y a son mari, écoute, c'est sordide, là, Bernard. Le mari tient l'enfant de 6 ans sous le robinet d'eau chaude dans la salle de bain. Le robinet est ouvert à son maximum. Et là, t'as le débit d'eau qui coule dans le visage de l'enfant.
Il est en train de le brûler vif.
Voilà. Et là, évidemment, l'enfant se débat. C'est la noyade à la Guantanamo, là.
Mais là, en pire.
Là, parce que t'as un bambin de 6 ans. Donc, il le maintient. Elle essaie de raisonner son mari. Il dit non, je dois le faire. Alors que l'enfant, évidemment, se débat. Et là, voyant qu'elle n'arrivait pas à raisonner l'homme, elle retourne dans la cuisine, téléphone d'abord au pasteur, ça ne répond pas. Elle téléphone au 911. Personnellement, j'aurais téléphoné le 911 Finalement, elle rejoint les autorités qui arrivent en trombe à la résidence. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils entrent dans la maison. Le petit garçon de 6 ans est dans la chambre à coucher, il est sur le lit. Il est nu, il est décédé à ce moment-là, il ne respire plus. Les policiers vont tenter de le ranimer, malheureusement, sans succès. On l'envoie à l'hôpital où on va constater qu'il a des blessures, en fait des brûlures sur 15% de son corps, notamment à la tête, sur les avant-bras et sur les coudes. Et tu l'as compris, c'est occasionné principalement par l'eau bouillante du robinet. Et là, M. Martinez n'offre aucune résistance, il est arrêté. Et là, il explique aux autorités qu'il est persuadé que son fils était possédé par une entité et que ses comportements, dont confirme son épouse, effectivement, depuis une semaine, l'enfant présentait des symptômes.
Mais oui, mais il était malade, le pauvre,
voilà,
le petit.
Voilà, donc on peut...
Amène-le voir un médecin.
T'as tout compris, donc on l'amène voir un médecin ou un pédopsychiatre pour essayer de comprendre ses comportements. Mais bon, lui a conclu qu'il devait s'agir d'une possession diabolique et pour lui, le seul moyen était de gaver finalement l'enfant d'eau bouillante dans l'espoir de le libérer de cet esprit malfaisant qui l'habitait.
Mais là, tu nous racontes ça, là.
Ce n'est pas
anecdotique, justement.
Non, ce n'est pas anecdotique. Chaque année, des dizaines, sinon des centaines de personnes décèdent dans des situations comme celle-là. Ce qu'on appelle ces exorcismes sauvages, ce n'est qu'un de plus. Donc, il faut faire très attention à ça.
Mais est-ce que c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou est-ce que c'est des gens qui sont animés par des espèces de convictions religieuses?
Ce sont des gens qui sont animés par des convictions religieuses. Écoute, je voulais simplement te citer, on est le 26 septembre, déjà au début du mois de septembre, à Tellouin, qui se trouve au Maroc, là, désolé si le nom est mal prononcé, là, Tellouin. Et là, on a une jeune femme d'une vingtaine d'années qui, elle aussi, dont les parents jugeaient qu'elle était possédée par le démon. Donc, on a fait venir un prêtre exorciste qui s'appelle un fki dans l'islam. Il a tenté d'exorciser la jeune femme qui s'est soldée, malheureusement, par le décès.
Qu'est-ce qu'il lui a fait, lui?
On ne sait pas. Les autorités n'ont pas communiqué d'informations sur les sévices qui ont été imposés à la jeune femme, mais ça s'est malheureusement soldé par le décès. Le prêtre exorciste, l'imam s'est présenté lui-même au service de la gendarmerie locale. Il s'est constitué prisonnier, reconnaissant qu'il avait procédé à ce rituel d'exorcisme. La jeune femme, évidemment, dans l'islam, on n'est pas possédé par un démon, mais on est possédé par des djinns. Donc, lui croyait que la jeune femme et les parents de la jeune femme croyaient qu'elle était possédée par des djinns. Ils ont donc procédé à cet exorcisme sauvage qui s'est soldé, malheureusement, par le décès de la jeune femme. Donc, celui aux États-Unis, c'est un qui s'est produit là, le 26 septembre, qui retient l'attention. Mais crois-moi, Bernard, il y en aura un autre le mois prochain et le mois suivant et l'autre mois suivant.
Mais comment peux contrer ça?
Par l'éducation, mais c'est difficile d'aller à l'encontre des convictions fanatique de certains individus. Et quand je parle de fanatisme, je ne parle pas forcément d'un type de religion en particulier.
Mais c'est ton enfant, t'imagines?
Effectivement, c'est troublant. Moi, j'ai lu le compte-rendu que les policiers en ont fait, les déclarations qu'ils ont remis à la presse. C'est quelque chose de très troublant et on le dit, on est dans 26 ans sous un robinet d'eau bouillante.
Tu nous as dit que la maman avait appelé le pasteur, c'est ça?
D'abord le pasteur.
Bon, donc ils étaient de religion probablement chrétienne, là, voilà. une des déclinaisons, là, que
Absolument.
Ce soit baptiste ou méthodiste ou évangéliste ou juste catholique.
Ouais, l'idée d'un exorcisme avec un prêtre pour libérer d'un démon, c'est quelque chose qu'on retrouve fondamentalement dans les religions, effectivement, comme tu dis, les religions chrétiennes ou les religions qui sont voisines.
Alors, tu te poses la question, pourquoi il n'a pas fait appel aux services qui existent dans l'Église? Tu nous en as déjà parlé. Peut-être que dans cette région des États-Unis, peut-être qu'il n'y a pas de prêtre exorciste. On présume là, que c'était une religion où il y a un service dédié à l'exorcisme.
On peut se retrouver dans un groupe religieux plus fondamentaliste, qui fonctionne en marge de l'Église elle-même, l'institution.
Ouais.
Mais on voit que ces gens, le fait que la dame a immédiatement tenté de rejoindre le pasteur, on peut supposer qu'elle l'avait déjà confié au pasteur au cours des jours précédents que les comportements de l'enfant semblaient être anormaux ou marginaux. Et malheureusement, l'affaire s'est soldée de cette manière-là. C'est tout à fait dramatique, mais malheureusement, il y en a trop souvent de ces crimes involontaires, parce que l'homme est accusé maintenant d'homicide involontaire. Mais néanmoins, ça nous amène dans une perception. On voit ici une perception extrême des croyances spirituelles, religieuses, peu importe comment on les appelle.
Voilà. Bon, très bien. Est-ce que le prochain sujet est plus sympathique?
Le sujet est plus sympathique. Écoute, on a l'impression que le gouvernement canadien a découvert qu'il y avait une mine d'or avec le paranormal, parce que depuis quelques années, on a émis des timbres à l'effigie de fantômes, de lieux hantés. Les fantômes, les lieux hantés, les monstres, toutes sortes de trucs.
Des timbres dédiés à des lieux hantés.
Des pièces de monnaie également.
Oh là!
Et là, la pièce de monnaie dont je te parle, elle a été mise en vente mardi et en quelques heures, elle est complètement épuisée. 4 4000 pièces qui étaient vendues pour 129,95 $.
Quand même.
Ce sont des pièces de monnaie en argent d'une valeur nominale de 20 $ et c'était la deuxième d'une série sur les ovnis, les grandes histoires d'ovnis au Canada. Donc, il y a à peu près un an et demi, on avait émis une pièce qui soulignait une rencontre d'OVNI qui s'était produite en Alberta, au Manitoba, pardon, en 1967. Et là, cette fois, l'événement dont on a voulu souligner par une pièce de monnaie qui, comme je l'ai mentionné, s'est vendue en quelques heures à peine, c'est un événement qui s'est produit le 4 octobre 1967. Et écoute, on est aujourd'hui vendredi 4 octobre. On est donc 52 ans après l'événement. Alors, je te résume rapidement cette histoire-là qui n'a jamais été officiellement expliquée, hein. On est en soirée, ce 4 octobre 1967. On est en Nouvelle-Écosse. Et là, des gens dans la région d'Halifax, vers à peu près 21h, 22h, voient passer dans le ciel une espèce de globe lumineux qui se dirige vers le sud. L'objet fait à peu près 15 à 20 mètres de diamètre. Il se déplace silencieusement et les gens, donc, le voient passer au-dessus de la baie d'Halifax et s'éloigner vers le sud. Une heure plus tard, dans un petit port de pêche complètement à l'extrême sud de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, un petit port qui s'appelle Shag Harbour, des gens, donc on a deux groupes de voitures là, qui circulent dans la région, ces gens-là voient dans le ciel un grand objet sombre avec des lumières ambre à la base, 3 ou 4 lumières ambre à la base qui semblent clignoter. Ils ont l'impression que c'est un objet, peut-être un aéronef comme un avion, qui semble en détresse. Alors, ces gens-là, et c'est des gens qui se connaissent pas, mais comme ils voient l'objet dans le ciel et l'objet a une inclinaison comme s'il se dirigeait vers la mer, ils se disent, il y a à Shag Harbour un espèce de promontoire où se trouve une usine de transformation qui s'appelle le Irish Moss Plant. Ils se disent, à partir de là, on va avoir une bonne vue sur l'endroit. Ils se rendent donc sur place. Ils voient ces lumières donc qui descendent vers la mer et elles semblent se poser sur l'eau. Ils contactent la gendarmerie royale de Barrington Passage en leur disant, on a l'impression qu'il y a un avion qui est tombé à la mer. Les agents de la GRC se rendent sur place. Ils voient l'objet sur l'eau.
Okay,
il est à peu près à 300 mètres de la rive. Là. Ils le voient, les lumières. Les lumières ambre ont été remplacées par une espèce de phare qui tournoie sur le dessus de l'objet. Alors, ils décident d'appeler les services des aéroports. Est-ce qu'il y a un avion en détresse qui a rapporté? Et au moment où ils se préparent à faire ça, un des policiers dit à son collègue, dit, laisse tomber, appelle plutôt les gardes-côtes. L'objet est en train de couler. Effectivement, ils voient au loin les lumières qui commencent à disparaître être sous l'eau et visiblement cet objet de Shag Harbour coule comme une pierre. Alors on appelle les gardes-côtes. Immédiatement, la GRC va mobiliser 2 bateaux de pêcheurs pour se rendre sur place.
Au cas où il y aurait des survivants.
Des survivants. Et au moment où ils arrivent sur place, ils sont confrontés à une scène très étrange. Sur plusieurs dizaines de mètres, la surface de l'eau est recouverte d'une espèce de mousse jaune ou orangée à peu près. Cette mousse, quand on essaie de la prendre, elle ressemble à de la mousse comme tu vas utiliser là, avec du savon à vaisselle dans ton évier. Et quand ils essaient de la prendre, elle disparaît rapidement dans l'air. Ils vont patrouiller le secteur jusqu'à l'arrivée des gardes-côtes vers à peu près 1h du matin. On ne retrouvera aucun débris, aucun appareil. Aux gardes-côtes va succéder éventuellement l'armée canadienne qui va envoyer un navire, le Granby. Les plongeurs vont rester sur place jusqu'au 8 octobre. Ils vont patrouiller le secteur, la baie de Shag Harbour.
Ils trouveront jamais rien, personne?
On ne retrouvera jamais rien. Il ne fait aucun doute que ce soir-là,
il s'est passé
quelque chose est tombé dans la baie de Shag Harbour. On a des dizaines de témoins. Les agents de la GRC le regardaient aux jumelles, ils le voyaient, ils pouvaient le commenter ce qui se passait. Mais on n'a jamais trouvé d'explication officielle à cet événement. Ça demeure l'une des grandes histoires d'OVNI de l'ufologie canadienne, si je puis dire.
Oui.
Et là, donc, avec cette pièce de monnaie qui a été mise en vente mardi dernier, ben évidemment, la monnaie royale canadienne voulait souligner cet événement. 52 ans plus tard.
En tout cas, ils font un bon profit. Une pièce de 20 $ qui ont vendu presque 130 $.
Voilà. Et à 4000 exemplaires, moi, j'ai déjà commandé la mienne. Je l'attends.
C'est vrai?
Absolument.
T'es sérieux?
Oh, absolument.
Ah, ben, tu me montres ça.
Oui, absolument.
J'aimerais ça l'avoir. Ben, merci, mon cher Christian. Ça a été très agréable, comme toujours. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Je vous en souhaite aussi une très, très bonne. Je remercie Larry Dufresne, qui est mon réalisateur, metteur en onde, Alexandra Marcouille, Maryse Duchesneau, mes deux super recherchistes, dis-je bien. Je vous souhaite un très, très beau week-end. Prenez soin de vous. On se reparle lundi. Ciao tout le monde.